La croissance verte n'existe pas.
Alors la réponse est non, non.
We will have to change, Hope is not blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les Décroissants tout chaud, une émission consacrée à l'urgence écologique, à la décroissance et au minimalisme. Je n'ai pas d'expertise particulière sur ces sujets, mais ils m'intéressent beaucoup. Enfin, j'y suis très sensible. Chaque mois, je vous ferai découvrir des passages, des morceaux choisis de livres traitant de la crise écologique. Car, comme l'écrit Greta Thunberg, c'est le sujet le plus important au monde et il doit être porté par un maximum de voix pour toucher le plus de personnes possible. Je retravaille les textes sur la forme, légèrement. Je simplifie le style, je raccourcis des phrases pour les rendre plus radiophoniques. Cependant, j'ai conscience que l'émission requiert malgré tout une attention relativement soutenue. Je dirais que tant que je ne vous lis pas les rapports du GIEC, on va s'en sortir. Ben, encore heureux. Bref, assez de blablabla, entrons dans le vif. Pour la première des Décroissants tout chaud, LDTC, pour aller plus vite, découvrons deux chapitres du Grand Livre du Climat, un gros bouquin rédigé par une flopée d'experts sous la direction de Greta Thunberg, publié chez Kalman Levy en 2022. Le premier texte a pour sujet le consumérisme. Il est écrit par Annie Lauret, journaliste américaine, auteure du livre « Give People Money ». Qui est responsable de la crise climatique? Qui doit changer ses habitudes? Nous répondons souvent les gouvernements, les différents secteurs d'activité. Aux États-Unis, l'agriculture, le bâtiment, la production d'électricité, la production industrielle et les transports sont les principaux secteurs polluants, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays. Alors oui, les pays, les différents secteurs d'activité et les entreprises devront obligatoirement modifier leurs pratiques si nous voulons sauver la planète. Toutefois, il ne faut pas oublier les ménages et les particuliers qui achètent ce que vendent ces entreprises et qui élisent ces gouvernements. Il faut parler des personnes dont la consommation excessive, et même effrénée, nuit à la planète et dont les logements, les voitures, les garde-manger et les garde-robes doivent évoluer. Parler en quelque sorte de la source du problème, le consumérisme. Bien entendu, aucune personne ou famille, quelles que soient ses habitudes extravagantes et dispendieuses, n'est responsable de plus d'une minuscule fraction du trop-plein de CO2 dans l'atmosphère, des ordures dans nos décharges ou du plastique dans nos océans. Les changements d'habitude dans un foyer n'aboutiront pas non plus à la moindre différence mesurable dans la lutte contre le changement climatique. Si une famille citadine et fortunée devient végane et renonce à l'avion et à la voiture, elle réduira peut-être ses émissions de carbone de quelques tonnes par an. Mais le problème mondial se mesure en dizaines de milliards de tonnes. Les particuliers restent malgré tout les destinataires de l'essentiel de ce qui est pompé, construit, abattu, extrait, tissé, coupé, transformé et expédié partout dans le monde, année par année. Et ce sont leur matérialisme et consumérisme, ou plutôt le nôtre, qui mènent à la destruction de la planète. Plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre et jusqu'à 80% de l'exploitation des terres, des matériaux et de l'eau résultent de la demande des ménages. C'est l'avènement de la classe moyenne dans le monde qui explique aujourd'hui en grande partie la croissance des émissions de gaz à effet de serre et la demande de ressources matérielles. Des pays comme la Chine, le Nigeria et l'Indonésie augmentent leurs émissions en termes absolus et par habitant à mesure que les familles sortent de la pauvreté et que le niveau de vie s'améliore. Cependant, les riches, des pays riches, sont les premiers responsables de l'épuisement des ressources terrestres. Un citoyen états-unien dont le revenu le place dans le 1% supérieur crée 10 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'Américain moyen. L'Américain moyen crée le triple d'émissions par rapport au Français moyen et le Français moyen provoque 10 fois plus d'émissions que le Bangladais moyen. Notre société donne priorité à ce qui est pratique. Elle valorise l'excès, encourage la concurrence et nous cache le coût véritable de notre mode de vie en négligeant le fait que les pires conséquences pèseront sur les animaux et les personnes des générations futures. Trop de personnes consomment trop, gaspillent trop et sont trop insouciantes. Le problème est particulièrement grave aux États-Unis, où les études supérieures, les soins de santé et la garde des enfants coûtent extrêmement cher, mais où la consommation matérielle est bon marché. Le logement moyen y a triplé de surface depuis les années 70. Un foyer aux États-Unis contient en moyenne 300 000 objets. Pas étonnant qu'un ménage sur 10 loue un box de stockage et qu'une personne sur 4 qui a un garage affirme qu'il est trop plein pour égarer la voiture. Bien sûr, une partie de ces affaires est nécessaire. Et une partie de cette consommation participe au bonheur, à la santé et à l'épanouissement de ces personnes. Mais ce n'est pas le cas pour l'essentiel de ces effets matériels. À de nombreuses reprises, des travaux de recherche ont montré que quand une famille atteint un certain palier au sein de la classe moyenne, les dépenses matérielles ne dopent plus son sentiment de bien-être. C'est sans doute parce qu'en s'enrichissant, cette famille affecte davantage d'argent aux biens qui affichent son statut social, qui ne subviennent à aucun besoin vital, mais situe la famille par rapport à ses pairs, affiche sa fortune et son bon goût. Ouais. D'une façon ou d'une autre, le consumérisme est néfaste pour notre planète qui subit déjà des pressions extraordinaires. Prenons par exemple l'obsession contemporaine du SUV. La part des véhicules très consommateurs de carburant a doublé depuis le début des années 2010, sans autre justification que le choix des consommateurs. Cette évolution a contrebalancé l'effet bénéfique des véhicules électriques sur la consommation globale d'énergie. Prenons un autre exemple, la fast fashion. Le secteur de la confection fabrique actuellement 100 milliards de nouveaux vêtements par an, et le consommateur moyen achète deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. L'essentiel de ces vêtements n'est jamais porté, ou porté très peu de fois, et 1% seulement du tissu est finalement recyclé. L'industrie de la mode remplit les décharges et non les armoires. La solution, la réponse, veulent nous faire croire les marques, est une réinvention de la consommation chez les élites mondiales. Une gourde, un sac en tissu, une paille en silicone, une voiture électrique, des appareils électroménagers connectés. Ces achats sont de petits pas vers un monde meilleur, nous dit-on. C'est pourtant faux. Pour ce qui est de la consommation de ressources et de la pollution, mieux vaut ne rien acheter qu'acheter quelque chose. C'est un adage presque toujours valable. Mieux vaut garder sa voiture que casquer pour une nouvelle Tesla. Mieux vaut porter jusqu'à la corde les vêtements que vous avez au lieu d'acheter une nouvelle collection capsule au nom de la mode éthique. Il faudrait qu'une personne utilise son sac en coton bio chaque jour pendant 50 ans pour compenser l'impact de sa production. Moins, ça veut dire moins. Voilà la vérité élémentaire. Chacun d'entre nous doit s'affranchir de l'excès et du superflu. Nous devons habiter dans des logements plus petits et plus écologiques et adopter les transports en commun. Et surtout, nous devons apprendre à douter des idéologies économiques qui ont déclenché l'extinction de masse et le réchauffement climatique. Nous devons prendre au sérieux ce désastre et agir en conséquence. Vous écoutez Les Décroissants tout chaud, vous êtes sur Radio B. Le deuxième texte que je vais vous lire est un petit guide d'achat, ou plutôt comment s'abstenir. Il est écrit par Mark Berners-Lee, professeur à l'Université de Lancaster au Royaume-Uni, auteur de « Il n'y a pas de planète B ». Nous voici face à une urgence climatique et écologique, et une partie cruciale de la solution se trouve dans la réinvention de notre consommation. Chaque goutte de combustible fossile sortie du sous-sol est consommée pour répondre aux besoins ou aux désirs de l'un d'entre nous, consommateurs de ce monde. Parfois, les émissions sont directes et flagrantes, comme les pots d'échappement des voitures, mais tout aussi souvent, ce sont les émanations d'usines qui, à l'autre bout du monde, fabriquent des choses servant à produire autre chose. Et ces choses sont des pièces détachées d'un autre objet que quelqu'un achète, sans avoir la moindre idée des émissions que provoque sa fabrication. Un nouvel ordinateur portable a le même bilan carbone qu'un trajet en voiture de 1500 km. Un nouveau jean a le même impact climatique que 2 semaines d'alimentation durable ou qu'une seule grosse pièce de viande. La plupart d'entre nous, la plupart du temps, n'ont aucune idée des empreintes carbone invisibles de tout ce que nous faisons et achetons. Avec la mondialisation, nos chaînes logistiques se sont complexifiées et opacifiées, en particulier dans les pays du Nord industrialisés. Nous sommes habitués à ce que tout apparaisse en rayon, comme par magie. On ne sait plus rien des procédés complexes qui ont permis la fabrication de nos achats. Mais pourquoi achetons-nous autant, en toute insouciance ? Parce que nous ne consommons pas que des produits et des services. Nous consommons aussi des informations et de la désinformation qui influencent notre représentation de ce que nous pouvons acheter ou rêvons d'acheter. Les secteurs de la publicité et du marketing, qui pèsent des milliards de dollars, sont entièrement consacrés à nous faire acheter des choses, que ce soit ou non dans notre intérêt, que ce soit ou non bon pour la planète. Le célèbre slogan de L'Oréal, « Parce que vous le valez bien », sous-entend que si vous n'achetez pas ces produits, vous vaudrez moins. Les recettes de Facebook proviennent à 97% des annonceurs. Des cinéastes sont généreusement rémunérés pour placer dans leurs films des produits qui sous-entendent discrètement, généralement sans qu'on s'en aperçoive, que nous pouvons être aussi stylés que l'agent 007 si nous buvons la même bière et si nous achetons un ordinateur portable de la même marque. Heineken aurait payé 45 millions de dollars pour que James Bond prenne une gorgée de sa bière dans un seul film. Alors, quand et comment acheter ? Et comment nous protéger des influences de la publicité ? Tout d'abord, apprenez à repérer et analyser tous les messages avec un recul critique. Demandez-vous qui nous influence et comment. À chaque publicité, demandez-vous « Que veulent-ils me faire croire ? Est-il vrai que je serai plus heureuse ou plus belle si j'achète ce produit ? Quelles sont les valeurs sous-entendues ? Est-ce que je me reconnais dans ces valeurs ? Si vous êtes en opposition avec les messages qu'on vous adresse, réfléchissez à la façon de vous protéger d'influences comparables. Regardez d'autres chaînes télévisées, abonnez-vous à d'autres médias, installez un bloqueur de publicité sur votre navigateur Internet ou changez de réseau social. Pour ce qui est des médias d'information, il est crucial de se demander qui possède et finance l'organisation et quels sont leurs intérêts. Que veulent-ils que vous pensiez ? Vous écoutez Les Décroissants tout chaud, vous êtes sur Radio B. Comment ne pas faire ses achats ? Premièrement, temporiser. L'essentiel de la consommation insouciante et néfaste pour la planète se résume aux impulsions. Posez-vous ces quelques questions. Pourquoi exactement est-ce que je ressens ce besoin ? Cette pulsion d'acheter serait-elle en réalité le signe qu'autre chose ne va pas dans ma vie ? Le cas échéant, comment y remédier autrement ? Ai-je été influencée par des personnes, des publicités ou des médias qui m'ont fait penser que j'avais besoin de ce produit pour afficher un statut social ou être bien dans ma peau ? Ont-ils raison ou dois-je forger mon propre avis ? Deuxièmement, réparer. En faisant réparer quelque chose, vous faites preuve de plus de responsabilité individuelle et vous utilisez bien moins de ressources que si vous achetiez un objet de remplacement. De plus, l'argent dépensé pour cette réparation bénéficie sans doute à un artisan de proximité. Et parce que vous dépensez moins, vous n'avez plus à gagner plus pour acheter plus. Troisièmement, partager. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez alléger la pression exercée sur la planète en empruntant cet objet. Vous ferez la connaissance d'un voisin par la même occasion, en le louant, ce qui est favorable à une économie durable, ou encore en participant à une initiative de mise en commun. Quatrièmement, passer au système D. Notre créativité ne s'épanouit jamais autant que quand on fait avec les moyens du bord. Si au bout du compte, vous avez vraiment besoin d'acheter quelque chose, il faut que vous vous posiez une nouvelle série de questions. Que cache ce produit? Comment a-t-il été fabriqué? Essayez d'imaginer l'ensemble de la chaîne logistique dans toute sa complexité, jusqu'aux matières premières sorties du sol. Imaginez la pollution et les produits chimiques. Pensez aux personnes qui ont travaillé à chaque étape de la production et aux terres qui ont peut-être été exploitées. Vous n'aurez sans doute pas toutes les réponses, mais s'en soucier est déjà un grand pas. Si vous ne pouvez pas faire ces recherches pour un produit en particulier, renseignez-vous sur la marque. Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses antécédents? Comprend-elle l'urgence climatique et œuvre-t-elle le plus possible au changement? Si une compagnie aérienne a voulu faire croire qu'il est possible d'inverser l'impact climatique d'un vol grâce à quelques sous de compensation, vous savez qu'il est impossible de lui faire confiance pour tout le reste. Envisagez d'acheter d'occasion. Si vous décidez d'acheter du neuf, faites en sorte que ce produit ait été pensé pour durer et être facilement réparé. Donnez la priorité au vélo, classique ou électrique. Retirez son prestige à la voiture, gardez la vôtre au lieu d'en racheter une neuve, à moins que votre modèle actuel consomme énormément de carburant. Si vous avez besoin de remplacer une voiture, choisissez-en une qui est petite, peu consommatrice d'essence, à moteur électrique ou hydrogène si possible. Pour votre alimentation, les règles fondamentales consistent à manger moins de viande et de produits laitiers, en particulier moins de bœuf et d'agneau, à éviter tout gaspillage et à s'abstenir de tout ce qui a été acheminé par avion, ce qui a poussé en serre ou est suremballé. Enfin, n'oubliez pas qu'acheter moins nous épargne la course qui consiste à gagner plus pour dépenser plus. Nous en tirons plus de liberté et donc plus de joie. Nous écoutons Boris Vian, dont certains ont pu dire qu'il était le sosie d'Emmanuel Macron, voire son grand-père. On raconte vraiment n'importe quoi. Écoutons plutôt la complainte du progrès, Boris Vian.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Chers auditeurs, merci. Rendez-vous le mois prochain. Je vous rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site de Radio B. Je vous recommande notamment l'émission Court-Circuit. Les décroissants tout chauds vous saluent bien et ciao Gudule.
La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.